Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans la zone payante, amateurs de football. Avec votre animateur Mathieu Boivin. À ma droite, Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec. En forme, Steph?
De retour et heureux de l'être.
Oui, c'était bizarre la semaine dernière. Il manquait quelqu'un. Stéphane était absent en raison d'un déplacement à l'étranger pour couvrir le Canadien, si je ne me trompe pas.
Ouais, Canadien, rencontre des gouverneurs aussi en Californie. Une semaine bien remplie, mais un petit pépin sur la route à mon arrivée vendredi passé. C'est ça qui m'a empêché d'être parmi vous.
Alors, et on poursuit avec Jean Carrier, ex-animateur, analyste, des matchs du Rougeur Football, spécialiste fantasy. En forme, John Essay?
Fidèle au poste.
Les gars, on commence pas le choix. Ça a été le sujet d'actualité la semaine, le Spygate 2. Première affaire, pourquoi faut vraiment, si on vraiment là, été là pour prendre des signaux de l'autre équipe, t'as vraiment besoin de tricher contre les Bengals? Moi, c'est la première affaire qui m'a sorti de la tête quand j'ai vu ça, puis je pense que c'est ça que tout le monde retient. T'as besoin de tricher contre les Bengals. Steph, rassure-moi. Là.
Écoute, l'affaire, c'est qu'il faut le voir dans un plus vaste ensemble.
C'est-à-dire que c'est des tricheurs tout le temps, non?
Je pense que si tu filmes la ligne de côté adverse, tu le fais pas pour les Bengals, tu le fais pour plusieurs équipes. T'sais, je pense que c'est un peu institutionnalisé, finalement. Là. Mais là, il y a les Patriots qui disent de leur côté, c'est notre équipe de production vidéo. C'est pas associé à Bill Belichick et à tout le personnel football. C'est deux choses distinctes. Il allait filmer la vie d'un scout sur la route. Ça, je veux bien, mais il y a une affaire qui semble louche. Ça n'a pas été prouvé, mais il y avait un article cette semaine sur Pro Football Talk qui mentionnait que, semble-t-il, que dans la vidéo en question, pendant 8 minutes de temps, le sideline des Bengals était filmé vraiment en vidéo.
C'est là qu'est le problème.
Ben, c'est parce que en quoi ça correspond à la vie d'un scout sur la route? Là, un scout, un dépisteur sur la route là, pour l'organisation, je le comprends pas. Écoute, je sais pas là si on va en arriver au même point que le fameux Spygate. Je sais pas si ça va déboucher comme ça ou si on va tasser ça un peu de côté. Si c'était les Buccaneers de Tampa Bay, les Panthers de la Caroline, les Bengals à l'inverse.
On dirait que c'est un accident de parcours. Ou
L'affaire, c'est que les Patriots, c'est une affaire, une autre, une autre, une autre.
Pis comme on dit en termes judiciaires, ce sont des récidivistes.
Mais ce qui devient un peu mêlant là-dedans, c'est que on se dit, OK, pourquoi ça arrive toujours avec eux? Est-ce vraiment parce qu'ils trichent sans arrêt? Ou parce qu'on a tendance à plus les observer parce qu'ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent? Puis ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'on va arrêter là, de se dire des affaires comme « Ah, ben c'est pour ça qu'ils gagnent, ils trichent ». Ils n'ont pas besoin de ça. Les Patriots, c'est une organisation qui travaille probablement plus que tous les autres à travers la Ligue.
Exactement.
Ils sont une coche en avant, mais pourquoi tu aurais besoin de t'abaisser à des tactiques comme ça? C'est ça, là, c'est là le point de curiosité pour moi. Là.
Je m'en vais du côté de Jean Carrier. Ton évaluation du, je dirais, le Spygate 2, mais entre guillemets, là. C'est pas tout à fait ça encore.
Non, effectivement, mais moi, je le vois peut-être d'un œil différent que vous autres, les gars. Moi, je me dis que chaque formation de la NFL fait à chaque jour des pieds et des mains pour un vouloir gagner et être le plus proche possible de la ligne. D'une ligne qu'il faut pas traverser. Dans le cas des Pats, ben on l'a vu, ils l'ont déjà traversé une fois.
À quelques reprises.
Est-ce que cette fois-là, c'est encore une fois où est-ce qu'ils ont traversé la ligne? Peut-être. Écoute, on va le savoir, je pense, on va en savoir plus dans les prochaines semaines. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que les Pats sont pas tout seuls. Ça, je suis convaincu de ça. Il y a d'autres équipes aussi qui s'abaisse à de telles tactiques. C'est juste que ça n'a jamais été prouvé. Et vous connaissez le dicton, messieurs. Si tu te fais pas pogner, c'est pas de la tricherie.
Puis c'est là aussi que j'amenais tantôt pourquoi je parlais des Buccaneers ou des Bengals ou des Panthers. C'est pas pour parler de ces équipes-là. C'est qu'ils sont moins, disons, significatives comme équipe que les Patriots à cause des accomplissements des Pats.
Exact.
Mais comme Johnny dit, si ces équipes-là le font, qu'ils se font pas prendre, puis demain matin, ils se font prendre, je pense qu'on n'en fera même pas un gros cas national. On va dire, ah, les Bucks ont fait ci, c'est pas correct, puis c'est fini.
Donnez-leur une amende, enlevez-leur une coupe de choix, puis on passe un autre appel.
Il y a une raison pourquoi les commentateurs à l'attaque, spécialement les commentateurs à l'attaque, se cachent les lèvres là aussi là, depuis plusieurs années. Vous saviez que les équipes engageaient des spécialistes du FBI qui travaillaient pour la mafia. C'est pour lire sur les lèvres. Ce n'est pas une blague. On pense que c'est quasiment la théorie du complot. C'est vrai, ça a été prouvé. Ils ont engagé ces gars-là pour être capables de lire sur les lèvres des commentateurs à l'attaque pour déceler qu'est-ce qui allait être appelé comme jeu. Là, est-ce que tu me dis, c'est-tu de la tricherie, ça? Moi, je dirais que oui, tu sais, mais il y a un autre dicton qui dit « If you ain't cheating, you ain't trying ». Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Si tu t'approches pas de ça, ça veut dire que t'essayes pas vraiment pas de gagner? Écoute, c'est...
En bout de ligne, admettons qu'ils l'ont vraiment fait. Moi, j'en reviens au point de départ. Je veux pas minimiser, mais est-ce que c'est ça qui est fait gagner?
Non.
Il y a un moment donné, il faut arrêter, là. Je comprends qu'on parle de Spygate 2. Je comprends que ça peut être choquant pour l'amateur qui est tanné de voir les Patriots dominer. Puis je suis pas en train de... Moi, les Patriots, je suis pas un fan, je suis pas un hater. Je me considère entre les deux. Mais il y a un moment donné, il faut reconnaître que c'est pas à cause de ça qu'ils gagnent. Là, tu vas aller chercher des minimes avantages à gauche, à droite, oui. Mais il faut toujours bien que tu ailles un club bien dirigé. Il faut toujours bien que tu ailles les joueurs pour exécuter le plan de match. Je pense pas que c'est en filmant les lignes de côté des Bengals de Cincinnati que tu t'en vas chercher 4, puis 5, puis 6 Super Bowl.
Quand on accumule toutes ces infractions-là, entre guillemets, est-ce que ça, pour vous, là, est-ce que ça a un impact sur la dynastie que les Patriots vont laisser? Parce qu'il y a eu quelques éléments de triche là, qui ont été prouvés. Lui, il l'est pas encore. Johnny, pour toi?
Ouais, là, tu parles
de la dynastie
de ce que,
at large.
Qu'ils vont laisser comme héritage. Peut-être un petit peu. Écoute, ça enlève peut-être un petit peu de gloire, mais pas beaucoup comme Steph l'a mentionné. Moi, je pense pas que c'est en raison de ça qu'ils gagnent des matchs. Puis la preuve, c'est qu'après le premier Spygate, ben, les victoires ont juste continué.
Ça a pas arrêté.
Les victoires ont continué à défiler. Est-ce que si dans le ce cas-ci présent, je pense que si ils sont en mesure de prouver que Bill Belichick était au courant, là, moi, je pense que peut-être ça va surtout atteindre l'héritage de Bill Belichick. Parce que, veux pas, quand t'es l'entraîneur-chef, t'es responsable de tout ce qui se passe en dehors et sur le terrain au niveau de ton organisation.
Puis au niveau des Pats, le chef, il y en a un, c'est Bill.
Ouais, ça, il n'y a aucun doute. Bill est l'homme de la situation.
Dans le Spygate 1, puisqu'on va l'appeler comme ça, celui en 2007. Semble-t-il que les Patriots avaient dit, écoutez, si jamais il y a des membres de l'équipe, de l'organisation, du personnel, peu importe, qui se font prendre à filmer l'adversaire pour des signaux, juste à dire que c'est une équipe de production vidéo de l'équipe là, qui s'occupe de filmer des choses pour l'interne, ça va passer comme du beurre dans le poil. Donc, est-ce qu'ils en sont...
C'est louche un petit peu.
C'est louche. C'est louche, mais moi, pour répondre à ta question, est-ce que ça atteint leur dynastie d'une quelconque façon? Je pense que dans 20 ans, quand il va avoir les bustes de Belichick et Brady au Temple de la Renommée, puis qu'on va faire des NFL films sur eux autres à profusion, je pense qu'on fera à peu près pas allusion à ça. Je pense que ça va devenir, heureusement ou malheureusement, là, c'est selon notre perspective, mais ça va devenir un détail dans l'histoire. Je pense.
Pas plus que ça, non?
C'est comme ça que je le vois.
Pour le moment.
Je peux me tromper. Il peut sortir un scandale pas possible dans 3 semaines. Là. Mais au moment où on se parle, moi, les détails qu'on a... Écoute, je pense que ce qu'il y a eu de plus grave, là, c'est peut-être quand il avait filmé la pratique marché, le walkthrough des Rams avant le premier Super Bowl. Ça, les joueurs des Rams en parlent encore. Marshall Faulk au Super Bowl, il y a quelques années, il avait rencontré les médias, puis ça avait été un gros point de discussion. Il disait, vous pouvez pas savoir tout ce que ça contient comme information sur un plan de match, un walkthrough comme ça. Il nous avait filmé, il savait exactement où on s'en allait. Ça, ça me rend pas mal plus froid. Mais honnêtement, depuis ces histoires-là, ils en ont gagné un puis un autre, un Super Bowl.
Oui. Puis c'est ce qu'on pense au Super Bowl contre les Falcons, c'est pas une affaire de tape là, qu'ils ont fait gagner, revenir 28-3. Là.
Non, c'est ça. Il y a eu toutes sortes d'éléments là-dedans. Puis je rejoins carrément ce que Johnny dit, moi. Écoute, on peut pas le prouver, mais je pense qu'à peu près tout le monde a la main dans le sac à bonbons.
Tout le monde essaie d'étirer l'élastique le plus possible pour gagner.
Ça, il n'y a aucun doute. Puis des fois aussi, c'est à une équipe aussi à se protéger. Là. Si j'étais le cas des Bengals, puis je sais que l'équipe de production des Pats était dans la place, ou là, c'était à Cleveland, mais j'aurais peut-être quelqu'un à côté de l'équipe de production pour m'assurer
qu'ils sont là, qu'ils font vraiment pourquoi ils disent qu'ils sont là.
Exactement. Ça, c'est, en tout cas, moi, je pense que ça fait un peu partie, là, du problème, un peu, là, tu sais. Ah oui, vous êtes l'équipe de production des Pats. Ben,
bienvenue.
Bienvenue.
Les portes
sont grandes ouvertes.
Oui,
filmez ce que vous voulez. Ben, écoute, on l'a vu, qu'est-ce qu'il voulait filmer aussi. Donc, écoute, on va en savoir plus aussi dans les prochaines semaines.
Je sais qu'on a l'air de marcher sur des œufs un peu, mais on peut pas avoir un avis tranché.
Ah non, pas pour le moment. Il y a beaucoup, je pense, de questions à répondre.
Il y a beaucoup trop de flou pour l'instant. Puis je sais que les gens vont se dire, non, c'est des tricheurs, on le sait, c'est répétitif, tout ça, mais... faut quand même attendre, prendre notre gaz égal. Là. Il n'y a pas assez d'éléments qui sont...
Je pense qu'il faut laisser la Ligue, s'il y a une enquête, laisser les gens qui doivent surveiller ça, faire leur travail. D'ailleurs, y a-t-il une enquête officiellement lancée par la Ligue?
Ben, ce que j'ai vu, c'est que Roger Goodell disait hier, je pense, il y a encore des détails qu'on est en train de rassembler pour se faire une tête le plus précise. Donc oui, là, je pense qu'ils sont en train d'investiguer le dossier.
Mais en tout cas, on va voir pour la suite des choses, mais ça va ajouter un élément là dans cette organisation là. Tu sais, on appelle pas Bill Belichick Dark Vader pour rien. Là.
Non,
c'est Dark Vader, lui, il prenait tous les moyens pour gagner. Là.
C'est pas pour rien que toutes ces histoires là sortent sur les Patriots, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se font un plaisir de faire des fuites dans les médias quand ça touche les Patriots, alors que, pour revenir à mon exemple,
oui, les Buccaneers... Les Jets trichent un match, là, c'est comme un... Bon, regarde, là.
C'est...
L'organisation moribonde depuis...
Et on comprendrait plus un peu pourquoi les Jets le font, parce qu'ils en ont...
Ils en ont vraiment besoin.
On l'a vu dans le match du jeudi soir contre les Ravens, notamment.
Mais écoute, il y a quelques années, je donne un exemple comme ça qui me revient en tête, puis il y en a probablement bien d'autres. Les Falcons d'Atlanta s'étaient fait prendre dans leur dôme à monter le son, le volume de la foule.
Oui, c'est vrai.
Écoute, qui parle de ça aujourd'hui? Personne. Pourtant, si...
Combien de Super Bowl les Falcons? Tranquille.
Donc, si les Patriots font la même chose, ça devient un scandale national. Imagine, Matt, là, on en parlera encore.
Ah non, c'est
les clair. Falcons ont fait ça. Je suis convaincu que le trois quarts des auditeurs de la zone vont se dire « Ah oui, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. »
Ah non, ça n'a pas collé à l'organisation.
Non, parce qu'écoute, ça n'a pas eu d'impact finalement sur leur victoire-défaite.
Non, exactement. Mais si on a fait le tour du Spygate Gueux ou
ben,
autre chose à ajouter,
oui.
Vas-y.
Dernier point, au niveau du coaching aussi, il faut que tu t'assures que, des fois c'est difficile de tout contrôler, mais faut que tu t'assures que, justement, même si tu te fais filmer, que c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite.
C'est un travail de protéger tes renseignements. Là.
Exactement. Au niveau secondaire, ici à Québec, je me suis déjà fait voler mes signaux. Ça m'avait pris un quart pour m'en rendre compte. Et j'avais juste simplement changé de système par la suite. Mais ça arrive pas juste dans le pro. Là. Ça peut arriver
partout. Ben
partout.
Oui.
Partout. Puis c'est...
Quand j'allais avec des amis...
Et j'en voulais pas à l'autre équipe. J'en voulais à moi.
Ouais, ce que tu as dit, c'est que j'aurais dû mieux protéger ma transmission de renseignements.
Exactement.
La personne qui t'a volé tes signaux, l'as-tu retrouvé dans une ruelle louche après?
Non, on a eu une petite discussion là, après le match, mais c'est tout.
Allaboy, bon, ben le Spygate 2, je le mets en guillemets, parce que bien sûr, les enquêtes sont en cours, ce n'est pas complété. On prend une petite pause et après ça, on va discuter, faut le dire, là, la pire division de la Ligue. Qui veut bien se botter les fesses et aller chercher la NFC East?
Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Alors, de retour, les boys, c'est une drôle de situation. On a la NFC, une division loadée de bons clubs. Puis on a la division, la conférence NFC, excusez-moi. Puis on a la division Est, où tout le monde est pas bon. C'est pas compliqué. Les Eagles qui perdent il y a une couple de semaines contre les Dolphins. Les Cowboys qui sont pas convaincants. Ouf! Ça a tout pris,
hein, les Eagles cette semaine.
Non. Écoute, Eli Manning, pendant la première demi du match, avait l'air du bon Eli des bonnes années. Le Eli qu'on connaît est revenu en deuxième demi. Là,
mais... C'est au point, on aurait juré à regarder ça, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est débarqué dans le vestiaire à demi et qui a dit « Hey, wow, ça va faire, on va gagner. » Là.
Exactement.
Calmez-vous, on veut le premier choix, nous autres. Non, je blague, évidemment, ça se passe pas comme ça dans la NFL, mais c'était frappant la différence de niveau de jeu.
Oh oui, en deuxième demi, hey, les Eagles ont pesé, ils ont trouvé l'accélérateur du véhicule, puis ils ont mis la pédale au fond un peu. Là.
Ouais, mais ça roulait pas vite non plus. Là.
Non, mais au moins, ils sont allés chercher le match.
C'est qu'il n'y a pas de club qui semble vouloir s'extirper de la misère dans cette division.
Non, c'est ça.
Et d'habitude, t'es dans la misère, tu fais tout pour t'en sortir. Eux autres, ils se vautrent dans la misère, ces quatre équipes-là. Écoute, je faisais une petite recherche cette semaine parce que je me suis posé la question, c'est-tu la pire division qu'on a vu depuis longtemps, tu sais, c'est une impression qui est fausse ou non vraiment là, c'est loser pas à peu près.
C'est-tu le L dans le front de tout le monde là?
Ouais.
J'imagine que t'es retourné voir l'année où ce que les Seahawks avaient, j'imagine, remporté le championnat de division à 7-9 dans la NFC West.
J'y ai pensé, puis le pire c'est que c'est pas cette année-là.
Ah.
On a la pire division de l'histoire qui est en 2008 NFC West effectivement, mais c'est pas l'année des Seahawks là à laquelle tu fais allusion. En 2008, la fiche cumulative de la division, ça avait été 22 victoires, 42 défaites. Les Cardinals l'avaient gagné à 9-7, mais en dessous d'eux autres, c'était...
OK, c'était la poubelle. Là.
C'était la décrépitude. C'était épouvantable. Cette année, où on en est dans la NFC East, on a Dallas 6-7, Philadelphie 6-7, Washington 3-10 et Giants 2-11. Ça fait une fiche cumulative de 17-35. Ce que ça veut dire...
C'est que c'est possible qu'on ait la worst oui. ever. Là.
On pourrait atteindre le niveau de la NFC West de 2008, qui est la pire division de l'histoire. Donc, c'est pas des farces quand on dit personne veut gagner dans cette division-là. C'est pas exagéré. Ceux qui se demandent, c'est une impression que j'ai, c'est-tu trompeur? On se dit ça, mais il y a toujours des mauvaises divisions. Non, on se dirige vers les bas-fonds de l'histoire.
Aïe, aïe. Johnny, qu'est-ce que t'as à dire sur les bas-fonds de l'histoire? Là? Écoute, moi, je suis découragé à regarder cette division-là.
Ben, je peux comprendre. Écoute, quand les Eagles, ça prend tout pour battre les Giants. Moi, ce que je retiens un petit peu, c'est que la NFC East, ça a déjà été la fierté de la NFL.
Ouais. Oui, ça, c'est vrai. Là, absolument. C'est très bon point.
C'est une division de dur. Là.
De dur. Et pour moi, ce qui est évident, quand je regarde les clubs, c'est quand la NFC East était au top du top, c'était le coaching qui était absolument extraordinaire. On parle de Joe Gibbs avec les Redskins, qui est un Hall of Famer, qui est un coach qui a, je pense, gagné 3 Super Bowls avec 3 carrières différentes. Mm-hmm. Bill Parcells, tu sais, qui est Bill Parcells, où ce que Bill Belichick a fait son mentorat, ou son, on va le dire, sa maîtrise football.
Oui, on va appeler ça de même. Le post-doc football.
Ouais,
c'était pas une mauvaise école.
Non, vraiment pas. Les Eagles avaient Dick Vermeil. Tu sais, donc, écoute, c'est...
Tom Landry à Dallas.
Tom Landry un petit peu avant, effectivement.
Et après, t'as eu Jimmy Johnson.
Exact. C'est... Donc, on s'entend que le coaching était absolument incroyable. Et ça fait en sorte que cette division-là a été absolument dominante dans les années 80, début 90. Et là, tu regardes le coaching présentement.
Est-ce qu'on fait une comparaison? Est-ce qu'il y en a qui vont avoir mal en entendant
ça? Ben écoute, les Cowboys, peux-tu vraiment comparer Jason Garrett à Tom Landry? Honnêtement...
Tu viens de blasphémer, là, de les mettre dans la même phrase.
Peterson, on va peut-être y donner un petit break parce qu'il a quand même gagné un Super Bowl. Mais depuis ce temps-là, c'est très difficile. Puis moi, je trouve qu'on on l'avait mentionné la semaine passée, depuis que Frank Reich est avec les Colts, c'est plus difficile. Depuis que son coordinateur à l'attaque est parti, moi, je trouve que c'est un peu plus difficile. Les Redskins, ben écoute, l'ère Gruden a été extrêmement pénible. Je pense pas que Joe Gibbs est menacé. Là.
Non.
Écoute, les Giants également, là, ça a été extrêmement pénible aussi. Donc, moi, c'est une des raisons que j'explique pourquoi cette division-là est très, très faible. Et évidemment, la qualité des joueurs aussi a chuté drastiquement. Je vois pas de Lawrence Taylor présentement dans cette division-là.
Non, il n'y en a pas.
Tu as un excellent point sur le coaching. Puis d'ailleurs, quand on regarde ça, la preuve, c'est qu'à la fin de la saison, il risque d'avoir 3 coachs sur 4 qui sont dehors. Tu sais, on a déjà Gruden qui est parti. Pat Shurmur à New York Giants, écoute, il y en a qui vont dire il est juste à sa deuxième année, on va lui donner une chance. Je suis pas convaincu. Je pense que les propriétaires là-bas sont bien tannés puis qu'ils ont pas vu de progrès de l'équipe. C'est surtout ça. Si tu perds, mais que tu vois des signes de progrès, tu peux t'enligner quand même à dire, écoute, on accepte, là, le coach a un plan, on va le suivre. Mais en ce moment, on sent pas ça nécessairement. Jason Garrett à Dallas, à moins...
Fait une série, puis faut au moins qu'il gagne une ronde.
Ah non, c'est plus une ronde, faut qu'il aille au Super Bowl. Là. S'il va pas
rien de moins, rien en bas du Super Bowl.
C'est fini, Garrett, on le voit. Jerry Jones est impatient, il l'a toujours défendu publiquement.
Ouais, mais dans une récente entrevue soir, il avait sauté un plomb. Là,
il se fait un plaisir là. De le planter, donc c'est pas mal fini aussi. Ça sent la fin pour 3 des 4 entraîneurs dans cette division-là. Fait que pour te ramener à ton excellent point, Johnny, là, le coaching fait une énorme différence, effectivement.
Hey, les boys, un des grands partisans des Eagles que je connaisse, c'est Mario Dumont. Et je l'ai vu le week-end dernier, on avait les retrouvailles du temps des fêtes de l'équipe, de notre équipe numérique. Puis Mario est venu me voir, il dit, moi, je suis convaincu, l'entraîneur des Eagles est en dépression. Tout passe par là. Il dit, je la suis, mon équipe, je regarde les points de presse. Il dit, cet homme-là n'est pas focus. Il dit, il est complètement à côté de ses pompes. On lui pose des questions, il réagit pas. Il dit, je vais soumettre la théorie à mes co-animateurs. En fait, est-ce que l'entraîneur du côté des Eagles est à pointer du doigt pour les déboires des Eagles? J'en mets peut-être un peu de la dépression, on s'entend, là, mais...
Il y a un facteur là, là-dedans qui est à considérer, c'est que les Eagles, je veux pas les défendre, mais il y a énormément de blessures. Écoute,
hey, c'est l'enfer.
La semaine passée,
Jeffrey, il vient d'être mis sur la liste des blessés.
Ouais, les receveurs, ça fait pitié. Au point où la semaine passée, le match contre les Giants, justement, il était à un cheveu d'envoyer Josh McCown comme receveur. C'était le receveur d'urgence. Il n'y avait pas le choix. Il était
Un de leurs receveurs est un ancien carrière au niveau universitaire.
D'ailleurs, messieurs, le meilleur gazouillis de ce match-là a été envoyé par l'ancien receveur des Colts, Reggie Wayne, qui a dit « Voyons, je ferai ce club-là n'importe quand et je suis au bar présentement.
» Donc, ça peut vous aider, les boys.
Donc, ça donne une idée de la profondeur au niveau des receveurs des Eagles.
Donc, il y a des blessures. Ça explique pas tout. Il y a bien des clubs qui ont des blessures, me répondront certains. Mais la ligne offensive a été maganée aussi. Lane Johnson, cette année, qui a une saison difficile côté blessure.
La tertiaire est horrible. Tu joues contre les Eagles, tu passes 300 verges.
Est-ce que Doug Peterson est à côté de ses pompes? Je pense quand même qu'il mérite le respect dans cette division-là puis qu'il a accompli de belles choses depuis son arrivée. Mais effectivement, là, il y a quelque chose qui s'est brisé, on dirait, là-bas. Est-ce que c'est Carson Wentz qui n'a pas la pogne qu'il devrait avoir dans ce vestiaire-là? Il y a des rumeurs à cet effet-là aussi que Carson Wentz n'est pas un leader nécessairement apprécié de ses coéquipiers. Il faudrait qu'il travaille beaucoup sur sa personnalité. Écoute, il faudrait vraiment graviter autour de l'équipe au quotidien pour répondre à cette question-là. C'est ça le problème, mais je pense pas, moi, personnellement, que Peterson ait un problème comme tel.
Est-ce qu'on fouette Doug Peterson, Johnny, ou il ne mérite pas le fouet?
Ben, écoute, il méritait quand même d'aller au bar la semaine passée parce que c'est lui que j'ai envoyé.
Défaite contre les Dolphins.
Mais c'est aussi ses commentaires. Je suis un petit peu d'accord là, avec le point de Mario. Je dis pas qu'il est peut-être en dépression, mais le message qu'il envoie à son équipe n'est pas le bon. Tu sais, quand il dit bah, ça va être tough de faire les séries, c'est un long shot.
Puis les Dolphins, c'est une bonne équipe. Hey, attends un peu, là. Wow.
C'est pas le message qui peut inspirer une équipe, loin de là. Ceci étant dit, par contre, Là, il y a plus d'outils vraiment, là, présentement avec les Eagles pour travailler. On l'a vu aussi contre les Giants. Écoute, c'est dur de lancer le ballon, là. C'est, écoute, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des passes dans
le flanc.
Dans le flanc, avec le porteur de ballon, parce que les receveurs ont beaucoup de difficultés, là, à créer de la séparation avec les demi-défensifs. Le seul qui faisait une différence, c'est Jeffrey. Je m'attendais à mieux d'Arcega Whiteside, ouais, qui est un receveur qu'ils ont repêché de Stanford, mais il est plus là dans des situations spécifiques. Il peut pas les aider, je trouve, à long terme, parce que c'est un grand receveur costaud qui est capable de gagner certaines balles 50-50, mais seulement dans selon moi, proche de la zone début. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu te rends pas dans la zone début?
Si t'es pas capable d'aller proche de la zone début, t'es dans le trouble.
Donc, t'as Aguilar, que chaque passe est une prière, une aventure sans nom. Là.
Et quand il joue, parce qu'il était blessé aussi, lui, ouais, la semaine dernière. Exact. Donc, c'est ça. Quand tu mets tout ça ensemble, ça donne un club qui est à 6-7, qui devrait avoir une meilleure fiche parce qu'ils ont quand même du talent. Mais ça, c'est très difficile. Puis, est-ce qu'ils vont passer les Cowboys? Moi, j'en doute.
C'est ouais, ça, là, la grande question.
C'est ça, peut-être la question avant de passer à un autre appel. Vous voyez qui va finalement se botter les fesses pour aller chercher cette division-là? Oh mon Dieu, quel enthousiasme, Stéphane!
Écoute.
Mais ça va jouer entre les Eagles et les Cowboys. Moi, je suis encore
convaincu. Je vois pas les Redskins parce qu'il y avait un graphique cette semaine qui circulait qui disait que les Redskins, non, avec un alignement de planètes parfait, mais ça sera pas eux autres.
On
donc,
va arrêter de niaiser, là.
C'est ça, ça n'arrivera pas.
Ça va jouer le match à Philadelphie entre les Cowboys et les Eagles.
C'est pour ça, le match étant à Philadelphie, écoute, je vois pas comment les Eagles peuvent gagner cette division-là, mais ils vont le faire probablement. Là,
par la bande.
Puis ça ferait 2 années en ligne qu'ils font une série par la bande. Puis écoutez, il y a une chose qui est drôle. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la fameuse division de 2008 là, que je vous parlais tantôt, ben les Cards avaient été au Super Bowl.
Ah oui, ben tu comptes les Steelers. C'est vrai.
Donc, personne n'est mort dans cette...
Ah non, puis dès que tu fais des séries... Il n'y a plus rien qui compte la saison d'avant. Ça ne veut plus rien dire.
T'es en
série, let's go.
C'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne en série.
Ah non,
c'est la meilleure équipe ce jour-là.
Exactement. Et les Seahawks, quelques années plus tard, dans la même division qui avait gagné le championnat de division, avaient accueilli les Saints.
À 7-9.
Et avaient gagné le match.
Ouais.
Et on se rappelle de ce match-là parce que c'est la fameuse course de Marshawn Lynch.
Ah oui, boum, boum, boum.
Il
avait fait le ménage.
Il était 11-5 cette année-là. Les Seahawks étaient 7-9. Donc, tout n'est pas perdu, mais ça reste une division risible.
Non, n'oubliez pas le dernier Super Bowl des Giants, une fiche de 9-7.
Risible, je pense qu'il faut se questionner aussi sur est-ce que c'est la bonne formule pour les séries.
Ouais.
Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est des anomalies. Il n'y a pas de formule parfaite. Exact, de formule parfaite. Moi, je pense que ça arrive très, très rarement qu'il y ait une division qui est aussi faible que ça. Moi, je pense qu'on va vivre avec, puis on va voir qui va sortir.
La seule chose que je trouve dommage dans la formule actuelle, c'est que l'équipe qui va gagner cette division-là va recevoir un match. Ça, c'est le côté un peu injuste, je trouve, par rapport à une équipe dans une autre division qui va se qualifier à 10-6 ou 11-5 comme wildcard, puis qui va être obligé de jouer série sa route. À mon sens, c'est là qu'il y a une injustice. Par contre, t'es champion de division, que tu fasses les séries, j'ai pas de problème comme tel avec ça.
C'est peut-être le match à la maison. Là.
Ouais, ça me fatigue un peu.
Ben écoute, présentement, peu importe qui recevrait là, entre Cowboys et Philadelphie, ça serait probablement les Seahawks de Seattle qui iraient jouer là à 10 victoires, 3 défaites.
Tu vois bien qu'il y a une injustice. Moi, c'est là que j'ai le bug. Mais en tout cas, pour finir, moi, je dirais que les Eagles vont gagner cette division-là. Mais écoute, tu l'as dit toi-même, là, je le dis avec...
aucune conviction.
Un enthousiasme vraiment qui est pas
flagrant. Moi, je vois...
Eagles ou Cowboys?
Cowboys. Hein?
Boys?
Moi, je trouve que la tertiaire des Eagles est tellement...
C'est ça,
horrible.
C'est l'impression que c'est là que ça va faire mal. Puis, à un moment donné,
ça reste que les Cowboys sont capables de lancer le ballon. Donc, moi, je verrais... Je dirais que les Cowboys sont moins pires présentement que les Eagles.
Gros match pour les Cowboys cette semaine, par contre. Hein? Ça va en dire
ouais, contre les Rams, je suis d'accord.
Oh oui, non, c'est clair. Puis s'ils perdent ce match-là, le pire, c'est que s'ils viennent à perdre ce match-là, ils peuvent encore gagner.
Ouais, ça change rien. Parce que ça va jouer.
Ils battent les Eagles. Ah, quelle honte. Quelle honte. Bon, alors, chers amis des Cowboys, fans des Cowboys et des Eagles, pas qu'on vous aime pas, mais on s'attendrait un petit peu mieux de vos équipes respectives. On va prendre une petite pause et ensuite, on va revenir pour faire nos prédictions des matchs du week-end.
« Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game. I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
Alors, de retour, on continue notre tour d'horizon de ce qui se passe dans la NFL et on y va avec les matchs du week-end. Premier match, Seahawks qui visite les Panthers. Je vais avec une victoire des Seahawks parce que les Panthers, on est un club éteint. Tout simplement, Stéphane, tu vois-tu d'autres choses que ce résultat-là dans ce match-là?
Non, je vois les Seahawks, évidemment. Là, je peux pas. Je veux bien essayer de temps en temps de déceler une surprise, mais ce sera.
On n'en verra pas là, je pense. Là.
Mais la seule chose que je veux voir, moi, tu parles d'éteint par rapport aux Panthers, oui, mais j'aimerais voir l'attaque aérienne des Seahawks reprendre un peu de lustre.
Oui, 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 c'est je suis d'accord. Facile.
Russell Wilson, écoute, il a été phénoménal en début de saison. Ça reste une excellente saison dans l'ensemble. Mais
il a un petit peu pâli récemment.
À ses quatre derniers matchs, là, quatre passes de toucher, quatre interceptions. Il a été victime de 18 sacks. C'est pas le Russell Wilson qu'on a vu au début de l'année qui improvisait, qui allongeait les jeux, t'sais, qui était capable finalement de faire arriver quelque chose avec rien.
Ouais, ouais.
Écoute, je suis pas nécessairement inquiet pour lui. Tout joueur a une mauvaise passe à un moment donné, c'est correct. Mais j'aimerais ça, à l'approche des séries, voir un Russell Wilson plus allumé qui est capable de transporter vraiment l'équipe sur son dos parce que c'est ça que ça va prendre en série.
Johnny, upset, pense pas.
Non, mais je vais peut-être faire du pouce sur ce que Stéphane a dit. Il faut aussi que le commentateur à l'attaque des Seahawks laisse Russell Wilson
être Russell Wilson.
J'ai trouvé qu'il était menotté un petit peu le match que j'ai regardé face aux Rams. Écoute, même quand on tirait de l'arrière, je comprends que des fois, il faut pas abandonner le sol, mais quand tu sors de l'arrière au quatrième quart, puis tu cours encore, puis en plus, qu'il n'y avait pas tant de succès, écoute, je me suis posé beaucoup de questions là, sur un beau questionnement sur le play calling des Seahawks, mais ceci étant dit, Seattle devrait gagner aisément.
On va aller rapidement à ce match-là, les amis. Patriots qui visitent les Bengals, je ne sens pas de surprise là. Patriots pour moi, Johnny.
Patriots vont retrouver le sentier de la victoire et s'ils peuvent gagner par 70, ils vont le faire.
Oui, oui. Non, exactement. S'ils peuvent mettre 90 points sur la plate, ils vont le faire.
Les Bengals sont en danger.
Ben oui, c'est l'équipe qui les a dénoncés à la Ligue. Là. Je pense que ça.
Ah non. S'ils peuvent peser sur le gaz, il n'y aura aucune pitié. Donc, Stéphane, victoire des Pats.
Ça pourrait être sanglant.
Buccaneers qui visitent les Lions. Victoire des Bucks. Victoire la semaine dernière. Victoire des Bucks, tout simplement. Les Lions, un club que Carrière appartient pas là.
Moi aussi, victoire des Bucks. Ils ont le vent dans les voiles. Ils veulent, j'ai l'impression qu'ils, tu sais, des fois, des équipes qui vont moins bien, comment ils vont finir la saison. Dans le cas des Bucks, je pense que c'est clair. Ils veulent finir la saison avec du positif. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Moi, je les vois battre les Lions à Détroit.
Stéphane.
Buccaneers aussi, c'est des montagnes russes souvent, les Buccaneers, avec Jameis Winston, c'est tout un manège.
Ouais, des fois, un match de 4 passes de toucher, 3 interceptions.
Mais excellente nouvelle pour lui. Les Lions, cette année, qui ont réussi seulement 5 interceptions, c'est la pire équipe de la Ligue à ce niveau-là. Donc, Jameis devrait en lancer moins de 3 cette saison.
C'est bon, mon Steph. On continue, je n'ai rien oublié pour le moment. Bears à 7-6 qui visitent les Packers. La saison des Bears se joue là une défaite et on pense là à réserver le voyage pour aller jouer au golf. Qui tu vois dans ce match, Stéphane, de remporter la victoire?
Packers, peut-être plus compliqué qu'on pourrait le croire. Parce que les Bears, tu le dis, jouent du bon football ces temps-ci, il faut leur donner.
Oui, puis les derniers matchs qu'on a vu d'eux autres, ils étaient crinqués.
Rivalité de division, c'est jamais très évident. Là. Puis les Packers, honnêtement, depuis quelques semaines, l'attaque est on and off, disons-le comme ça. Là. Ils ont eu de bons matchs, mais ils en ont eu aussi des très difficiles. Aaron Rodgers, la semaine passée, qui disait « J'ai pas de problème à ce qu'on gagne de manière ugly, donc des victoires qui sont pas nécessairement élégantes. »
W is a W.
Mais va falloir un peu que l'attaque montre des signes plus étincelants que ce qu'on voit en ce moment. Par contre, pour battre les Packers, faut que tu sois capable de courir avec le ballon, c'est leur lacune en défensive. Puis les Bears, cette année, ont seulement 3 matchs de 100 verges ou plus au sol, donc ça va jouer contre eux.
Victoire des Packers pour moi aussi. Johnny, as-tu un upset dans la manche? Je ne crois pas.
Honnêtement, quand tu regardes la carrière d'Aaron Rodgers, il se fait un malin plaisir de jouer son meilleur football dans le match le plus... Ben, la meilleure rivalité des Packers, c'est les Bears. Moi, je pense qu'il va encore jouer du bon football. Il devrait l'emporter, mais je pense que ça va être vraiment un excellent match de football. Les Bears, ils jouent leur meilleur football depuis...
Ah non, présentement, ça va bien.
Ça va très bien, puis Trubisky joue du bon foot dans les 3 dernières semaines. Moi, je pense que ça va être âprement disputé.
Un match serré, mais une victoire des Packers. Yes. Pour le John Essie aussi. Les Boys, une équipe qui a joué un super match le week-end dernier. Les Broncos qui sont allés exploser les Texans. Je me demande même si c'était pas à Houston.
À Houston.
Contre les chefs, est-ce que les Broncos ont une autre surprise dans la manche, M. Cadavette?
Pas pour ma part. Par contre... Eux autres, c'est excellent ce qui se passe en ce moment. Avec
Drew Lock, wow! Il joue-tu bien, ce gars-là?
Quel début de carrière, 5 passes de toucher à ses 2 premiers matchs. Honnêtement, ça, c'est des grosses, grosses nouvelles pour les Broncos qui avaient besoin de voir ça avant la fin de l'année, hein, parce que ça dicte tout le reste de ton repêchage. T'es pas obligé de t'attaquer à un corps arrière.
J'ai un corps arrière, je peux bâtir ailleurs.
Mais écoute, on va pas s'exciter après 2 matchs. T'as un début de carrière vraiment formidable, mais 2 matchs, c'est un échantillon minuscule. Là, t'sais.
Ils vont prendre le reste de l'année comme échantillonnage. Là.
Donc,
il y a aucun doute là-dessus.
Faut que ça continue. Je pense qu'on va continuer de voir de bons signes de Drew Lock, mais écoute, c'est plus nécessairement les bons vieux Chiefs de l'an dernier, là. Écoute, dans 5 de leurs 6 derniers matchs, les Chiefs ont pas donné plus de 212 verges par la passe. Tu sais, c'est des petites sommes. Là. L'année passée, ils se faisaient manger tout rond.
Au sol, ils protègent un petit peu mieux aussi quand même. Victoire contre les Pats le week-end dernier. Donc.
C'est une défensive aussi qui est opportuniste au sens où beaucoup de revirements. Là,
des sacs, de la pression sur le corps.
C'est ça. Dans les 3 derniers matchs, tu vois 7 revirements, 7 sacs du corps. C'est une défensive qui... Écoute, on parle pas d'une terreur, là, on s'entend, mais ça se tient debout. C'est plus les Chiefs de l'an dernier. C'est des matchs qui sont peut-être moins flamboyants. T'sais, c'est plus là, du 35 à 34. Mais faut que tu en gagnes des matchs comme ça. Puis les Chiefs sont en train de s'imposer d'une nouvelle façon. J'aime ce que je vois là, du côté de Kansas City.
Johnny?
Du côté des Chiefs, la défensive, elle me fait penser un peu à celle des Pats. Quand les Pats n'avaient pas une défensive ultra dominante, ils donnent des verges. Mais à l'approche de la zone début, ils sont rendus très solides pour justement empêcher les touchés.
Comme ils disent en anglais,
bend but don't break. Exactement. Donc c'est ça que je retiens un petit peu des Chiefs en défensive. Je pense que les Chiefs vont l'emporter, mais je suis agréablement surpris de voir Drew Lock performer comme il le fait. Je pense vraiment que ça va être le carrière d'avenir des Broncos et j'aime le bras de Drew Lock. Je l'ai toujours aimé. Quand il était à Missouri, il n'y avait aucune question à se poser sur la puissance de son bras. Il l'a démontré, je pense, dans les 2 derniers matchs.
C'est un gars, moi, pour l'avoir vu, juste finir là-dessus rapidement. Oh,
vas-y.
Je l'ai rencontré au Combine à Indianapolis en février passé. C'est un gars qui a vraiment un charisme naturel. Il a un magnétisme, il rentre dans pièce.
Les gens se collent à lui.
Les gens gravitent autour de lui, ont tendance à écouter, à boire ses paroles. Je pense que ça, c'est un trait important chez un corps arrière quand tu veux un leader dans ton équipe. Ça peut, des fois, c'est pas nécessairement un indicateur de succès. Il faut que tu sois capable de livrer sur le terrain, évidemment. Mais je tenais à le mentionner parce que il y a bien des corps arrière, des fois, que c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, t'es pas leader né parce
que
t'es corps arrière.
Non, c'est pas parce que tu lances des barges à 70 verges dans les airs que t'es un bon dude pour une équipe.
Et dans le cas de Drew Lock, il a bien performé dans probablement la conférence où il joue la meilleure défensive au pays dans la SEC au niveau NCAA et sans énormément d'outils. Ça aussi, ça me parle. Tu sais, des fois, on regarde présentement Burrow, je veux pas nécessairement trop rentrer dans NCAA, mais tu sais, il va gagner le trophée Heisman, c'est sûr et certain, mais il y a plein d'outils à sa disposition.
Autour de lui, il y a des bons joueurs.
Exactement. Dans le cas de Drew Lock, c'était pas nécessairement le cas, Missouri. Bon.
Les gars, moi, je vais avec un upset, victoire des Broncos, pour ma part.
Ooh!
Oh yes, oh yes, oh yes. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu dans les dernières semaines. Puis on est dû pour une petite surprise. Puis la NFL est tellement dure à comprendre cette année. Moi, je vois très bien les chefs battre les Pats la semaine passée et aller perdre contre les Broncos. Une petite coupe des ordures, messieurs, certainement du recyclage. Les Dolphins à 3-10 qui visitent les Giants à 2-11. Eli Manning qui va être sur le terrain encore ce week-end. Qui remporte ce match-là, M. Cadaret?
On va y aller avec l'expérience d'un Eli Manning. Puis je pense que ça va être... Écoute, je l'attends depuis longtemps, mais ça va être cette semaine le réveil de Saquon Barkley parce que depuis sa blessure à la cheville en début de saison...
Ouais, c'est pas le même joueur.
On n'a pas vu le vrai Saquon. Cette semaine, les Dolphins, c'est des bons candidats pour sonner le réveil de Barkley, son 30e ou à peu près contre la course. On va y aller avec les Giants.
Je vais avec les Dolphins, mais sérieux, je pitche un 25 cents dans les airs. Johnny.
Dolphins également, j'aime comment Flores fait jouer son équipe avec rien.
Ouais, c'est ça. Il garde son équipe focus, là, la gang de dudes qu'il y a avec lui. Là, il est
ben, les Dolphins jouent avec intensité. Est-ce qu'ils ont du talent? Non, mais ils jouent avec intensité. Donc, je vais les choisir pour battre les Giants.
Alors, je poursuis. Ça, c'est un des matchs importants du week-end. Les Texans qui visitent les Titans. Deux équipes à 8-5. C'est pour la tête de la division ouest.
Sud.
Sud, merci. Excusez-moi. Dans l'américaine, Monsieur Cadaret, qui remporte ce match?
Ça va être du bonbon. Puis c'est pas évident à prédire parce que à chaque semaine, moi, je me demande si la balloune de Tannehill va dégonfler. Tu sais, c'est pas croyable en ce moment ce qu'il fait. Ce
Elle ne dégonfle pas.
Écoute, depuis la semaine 7, les Titans marquent 31,4 points par match. Ça, c'est la deuxième meilleure équipe en termes de points marqués depuis cette période-là. Puis pourquoi je parle de la semaine 7? C'est là que Tannehill a commencé à jouer.
Puis moi, j'en reviens à Tannehill. C'est une interception. Il se fait intercepter dans le dernier match. Il y a un gros bonhomme qui descend le terrain avec le ballon. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Tannehill, il a dit « Hostie, il ne scorera pas ce gars-là. » Il a monté sur le terrain, il est allé le plaquer, puis un plaqué dur, là, on l'a vu circuler sur les réseaux sociaux. C'est le genre de jeu que les joueurs doivent se dire « OK, on a un baller. » Le gars veut jouer et veut gagner.
Ça a tendance, des jeux comme ça, à allumer les coéquipiers, je te dirais, sur le banc, là, parce qu'il était, disons, racheté son erreur.
Exactement, c'est une erreur, mais ce qui m'a impressionné, il y a un paquet de cas ailleurs qui ne serait pas allé se mêler là-dedans. Là. Il aurait laissé le gros bonhomme descendre le terrain, puis merci, bonsoir. Lui, là-dessus, il s'est impliqué. Donc, pour revenir à la prédiction, excuse-moi, j'ai fait un petit détour. Ben, m'excuse pour le sacre.
Ce que je voulais dire, c'est que je commence à peine à croire aux Titans. Ils vont sûrement me faire dans les mains, mais je vais prendre les Titans parce que je trouve que les Texans en ce moment sont trop dépendants de Deshaun Watson. La défensive est pas là. Le jeu au sol, ça dépend des matchs. T'sais, c'est pas, y a pas de stabilité autour de Deshaun Watson. Puis écoute, je commence à croire aux Titans, mais c'est souvent à ce moment-là que ça fonctionne pas.
C'est à ce moment-là que moi, je vais y aller avec l'équation inverse. Justement, les Titans devraient gagner ce match-là. Ils vont aller au bord, l'échapper. Victoire des Texans.
Je vois exactement la même analyse que Stéphane. Et c'est pour ça également que je choisis les Texans.
Et voilà!
Parce que tout, pour moi, crie que les Titans devraient remporter le match. Puis j'ai comme l'impression que les Texans... et Deshaun Watson vont en faire plus ou peut-être que les Titans, c'est peut-être eux qui vont plus de savoir. Mais je vois les Texans gagner le match. J'ai pas une raison.
Non, c'est ça. C'est logiquement, je vois les Titans. Les Titans, exact. La ballonne est en train de gonfler. Les gars jouent bien, tout va bien et ils vont l'échapper. Donc, victoire des Texans, mais c'est pas... Logiquement, je verrais les Titans l'emporter.
Je sais pas pourquoi je prends les Titans.
Parce que non, c'est la logique.
Oui, mais en mon fort intérieur...
Même toi, tu y crois pas en dedans de toi. Là.
Ben, je commence à y croire, comme je te dis, mais c'est souvent là qu'ils... Bon,
c'est un match important pour savoir justement si les Titans sont là pour vrai.
Ouais.
Alors, Texan pour moi, Johnny, et Titan pour Stéphane. On continue des Eagles qui visitent les Redskins. Match de division, il n'y a rien de fait. Là, on comprend que les Redskins se battent pour l'honneur et les Eagles jouent encore pour une place en série. Moi, personnellement, je vais avec les Eagles, mais avec aucune conviction. John aussi.
Même chose, les Eagles, mais ça va être difficile. Mais surtout aussi sur le fait que les Redskins, la force des Redskins, c'est qu'ils veulent courir le ballon. Et il y a une chose que les Eagles font bien, c'est arrêter le jeu au sol. C'est la seule chose qu'ils font bien cette année.
Donc, dans ce contexte-là, devrait l'emporter. Stéphane, même analyse, même gagnant?
Eagles, mais écoute, ce sera peut-être pas une partie de plaisir. Rappelez-vous, à la semaine 1, ces deux clubs-là s'étaient affrontés, puis les Redskins menaient 17-0. Il avait fallu toute une remontée des Eagles, puis on n'en revenait pas à ce moment-là. On pensait que les Redskins allaient être un gros club. Ça sera peut-être pas, là, je dis pas que c'est le scénario qui va se répéter, mais ça pourrait être plus difficile que prévu. Quand même, on y va avec les Eagles.
On poursuit le tour d'horizon. Les Browns qui s'en vont visiter les Cards. Je viens avec une victoire des Browns, tout simplement. Les Cards, un club magané, ligne offensive pourrie depuis le début de l'année, on le répète ici. John ici.
Je vais pour une deuxième semaine consécutive contre mes Browns. Simplement une victoire des Cards. Puis les Browns ont joué, je pense, du bon football à la maison depuis le début de la saison. À l'extérieur, c'est vraiment moins convaincant. Mais je pense encore que les Browns sont maganés également. Eux aussi, là, ils manquent du personnel. Ça va paraître dans ce match-là. Puis Baker Mayfield, même quand il gagne, il n'est pas convaincant.
Stéphane?
Ouais, je suis pas convaincu du tout par les deux clubs.
En fait, on est convaincu par personne dans ce duel-là.
Non, c'est ça. Je vais y aller avec les Browns pour la simple et bonne raison que la défensive des Cardinals est en déroute totale. Ils sont plus capables d'arrêter un cône. Ça fait pitié. Je pense que les Browns vont attaquer avec leur monstre à deux têtes au sol. Kareem Hunt, Nick Chubb. C'est la voie là, contre les Cardinals, honnêtement. Mais écoute, si les Cards gagnent, je ne serais pas surpris du tout.
Et c'est quand même une confrontation entre deux anciens gagnants du trophée Heisman et de la même équipe. Les deux ont joué pour les Sooners d'Oklahoma. Je parle évidemment de Kyler Murray et Baker Mayfield. Donc, ça va être intéressant qui va sortir gagnant de ce match-là.
Les Jags, que moi, je voyais en série au début de l'année, qui sont finalement mauvais à 4-9, visitent les Raiders. Je pensais que les Raiders, tout simplement, c'est un club qui court bien, puis les Jags ont oublié d'arrêter le sol cette année. Johnny?
Je joue avec les Raiders, c'est même pas serré pour moi. Les Jags, c'est présentement un des clubs les moins inspirants.
Non, il y a aucun doute, là.
Il se passe rien offensivement, tu vois qu'ils manquent d'outils, c'est prévisible aussi ce qu'ils font, puis défensivement, ils ont plus la défensive dominante des dernières années.
Pas en tout.
Monsieur Catterett.
Doug Marrone, son chien est mort, là, je pense.
Oui, je pense qu'il va faire partie du Black Monday aussi.
Ouais, malheureusement pour lui, là, on se réjouit jamais de ces nouvelles-là. Là. On a beau en parler, là, mais c'est pas...
Mais ça a l'air qu'il va seulement avoir la nouvelle le mercredi parce qu'il dort depuis au moins longtemps.
écoute, je vais y aller avec une raison émotive. Les Raiders vont l'emporter. Dernier match aussi à vie. Black Hole, Oakland. Je pense qu'ils vont être crinqués, les partisans vont être complètement fous. J'ai hâte de voir la réaction des partisans. Là, après le match, ça devrait être une scène assez émotive, merci. C'est encore, moi, l'incompréhension totale qu'on enlève un club à un marché aussi loyal que celui d'Oakland. Je comprends qu'il y a des gros bidous à faire à Vegas. Là. C'est un marché en effervescence.
D'argent.
Ça, c'est sûr. Puis je comprends l'argument de la NFL. Mais tu déracines un marché comme celui-là quand même, faut le faire, c'est triste pour les fans d'Oakland.
Ouais, c'est un peu sans cœur, mais ils vont imprimer de l'argent à Las Vegas.
Ah, ça va être
ça va être complètement débile.
On poursuit notre tour d'horizon et ça, c'est un match important pour les deux équipes pour leur course pour faire les séries éliminatoires, excusez-moi, les Rams qui visitent les Cowboys, John Essay.
Ouais, ben écoute, c'est peut-être le temps de se lever pour les Cowboys, même si les Rams jouent du très bon football. Écoute, ils ont joué un match impressionnant.
Ils ont sacré une volée au
Seahawks. Oh, oui. De la bonne vieille façon, ils ont utilisé Todd Gurley à profusion.
De la bonne DI.
Ouais, puis on va lancer, puis quand on va lancer, à raison que notre jeu au sol fonctionne, ben notre play action va être efficace, on va avoir des gars qui sont ouverts. Mais moi, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à courir à Dallas. Je pense que les Cowboys vont être en mesure de mettre un frein à cette attaque au sol-là. Et je pense que la tertiaire des Rams, pour moi, est quand même vulnérable. J'ai l'impression que Dak Prescott va avoir une bonne journée de boulot. Donc, j'y vais avec une surprise, parce que je pense que les Rams devraient être l'équipe logiquement favorite dans ce match-là, mais moi, je joue avec les Cowboys à la maison.
J'aime ce que tu viens de dire et mon pool de football fait dire « Prends les Cowboys parce que Dak, c'est ton carrière. Victoire des Boys. » Et Monsieur Cadarette, est-ce que tu as un avis contraire sur ce match-là?
Ouais, je vais y aller avec les Rams qui poursuivent sur leur élan, peut-être trop peu trop tard, mais en tout cas, écoute, puis les Cowboys, je leur fais tout simplement plus confiance. 0-6 contre les clubs avec une fiche gagnante.
Je ne leur fais plus du tout confiance.
Non, mais écoute, j'ai été convaincu pendant une bonne partie de l'année qu'ils faisaient partie des bons clubs de cette ligue-là, qu'il y avait juste quelque chose qui cliquait pas, qui allait se découvrir tard dans la saison. Mais là, il y a tard puis tard. Il commence à être minuit moins une. Je vois pas comment ils gagnent ce match-là. Écoute, tout est possible, là. Puis les Cowboys sont toujours capables d'en sortir une grosse. C'est ça, là, l'affaire. Mais en ce moment, les Rams ont le vent dans les voiles. Les Cowboys, c'est plus l'équipe que c'était non plus pour freiner le jeu au sol. Ils sont pas mal en milieu de peloton dans la ligue actuellement. C'est pas une mauvaise équipe contre le sol, mais c'est pas une bonne équipe contre le sol non plus. C'est de bon augure pour Todd Gurley.
Donc, victoire des Rams pour Stéphane. Passons de passer rapidement sur ce match, messieurs. Falcons qui visitent les 49ers. Je vois une victoire des 49ers, à moins que quelqu'un ait une surprise dans la manche. Jonassy?
Niners.
Monsieur Cadarette.
Et voilà.
Excellent, donc victoire des 49ers pour tout le monde. Vikings qui visitent les Chargers. Les Chargers à la maison, entre guillemets. Johnny, que tu vois remporter ce match-là?
Les mauves, écoute.
Les Vikings.
Ils jouent du bon football. Ça va être du pareil au même. Donc, on va se fier sur la bonne défensive. On va courir le ballon. Puis Kirk Cousins va avoir une belle journée de boulot.
Est-ce que tu as la même vision de la chose, M. Cadarette?
Oui, surtout avec Adam Thielen qui revient au jeu. Ça fait longtemps qu'il est attendu.
Ça va faire du bien, ça.
Une blessure à la jambe.
L'équipe avait du succès quand même, mais c'est quand même un meilleur receveur de la ligue.
Oui, puis ça m'a impressionné la façon qu'ils ont joué dans le jeu aérien sans Adam Thielen.
Oui, moi aussi. Écoute, ça a donné la chance à Diggs d'avoir beaucoup plus le ballon. Puis on voit à quel point il est talentueux aussi.
Mais cela dit, les Chargers... Faites juste attention à l'écart de points parce que tous les matchs qu'ils perdent, c'est de façon serrée. Ils finissent par perdre sur un jeu inimaginable. Ils inventent des façons de perdre.
Mais non, ils se tirent trois balles dans le pied. Là.
Mais écoute, va voir là, leur match cette année. Ils perdent toujours par 2, par 3, par 6, par 7. C'est toujours par une possession ou moins. Donc, c'est un club qui est dans le match, qui est très compétitif, qui pourrait rebondir l'an prochain. Parce qu'ils perdent des matchs de façon pas possible, là, mais c'est un club qui se défend quand même.
Donc, moi aussi, je vais y aller avec une victoire des Vikings. Le match, messieurs, du dimanche soir. Et là, je le cherche. Bills qui visite les Steelers. Ça, c'est un très beau match du week-end. Je vais y aller sans surprise avec victoire des Steelers, monsieur. Tout simplement parce
que. Il n'est pas vendu à peu près.
Ben non, tout le monde le sait, je suis un partisan des Steelers, je m'en cache pas. J'explique mon affaire, puis après ça, on pourrait dire que les Bills vont gagner, j'ai pas de problème avec ça. Les Steelers ont une méchante grosse defense. Ils ont une excellente défensive, puis Duckman est pas incroyable, donne suffisamment de bons jeux pour l'emporter. Le squad de receveurs d'inconnus en passant fait le boulot et Connor devrait jouer ce week-end. Ça pourrait faire du bien. Par contre, Juju ne jouera pas. Uniquement, c'est la défensive. La défensive est impressionnante. Et
écoute,
aller chercher ce match.
À t'écouter, Matt, les Steelers pourraient gagner le Super Bowl.
Oui, mais non, ça n'arrivera pas. Mais ils vont remporter ce match-là. De mon point de vue, tout le monde sait, je suis un peu fan. Johnny, est-ce que tu vois plutôt les Bills remporter ce match-là?
Écoute, je me suis longuement interrogé, mais j'aime le fait que le match se joue à Pittsburgh. Les Steelers vendent toujours chèrement leur peau à domicile. Et s'il y a un point que j'aime pas du côté des Bills, c'est qu'on est capable, du côté des Steelers, de courir face aux Bills de Buffalo. Je pense que le match, pour moi, c'est là qu'il va se décider.
Si les Steelers sont capables d'installer
le jeu au sol, ils devraient l'emporter. S'ils sont pas capables, c'est pas vrai que Hodge va les battre. Hodge va les battre à lui seul. Duckman, à un moment donné, la ballonne va péter. Ceci étant dit, je pense que les Steelers vont être en mesure d'installer le jeu au sol. Donc, je les vois remporter un match très, très serré.
Ouais, serré à bas score.
À bas ça pointage.
Va, ça va se taper dessus, ça.
Et ce la dernière fois que j'ai dit qu'il y avait un match à bas pointage, c'était la semaine dernière entre les 49ers et les Saints.
Ah oui, tu t'es là-dessus, tu t'es un petit peu trompé.
Je pense qu'on l'a échappé.
On continue. Est-ce que t'as une victoire des Bills ou des Steelers dans ce match-là?
Tout ça pour dire, Stéphane. Matt, on s'est bien payé ta tête, mais on y va tous avec les Steelers. Fait que finalement,
ah oui, je suis très surpris que tu prennes pas les Bills, Steph.
Non, écoute, je fais pas encore confiance aux Bills contre les grosses équipes. Pour moi, les Bills, c'est une bonne équipe en ce moment, mais c'est pas une grande équipe. L'affiche est un peu trompeuse. Écoute, tu l'as mentionné, Jean, tu dis c'est possible de courir contre Buffalo. La preuve, c'est qu'il accorde 4,4 verges par portée. James Conner, qui devrait avoir un bel impact dans ce match-là. Hey, puis une petite...
Et Josh Allen contre une bonne défensive, ouais, je suis pas encore convaincu. Non.
Il a été tellement frappé par les Ravens la semaine passée. Là. D'après moi, il traîne encore les sacs de glace. Puis, écoute, ça va être la même chose contre les Steelers, qui aiment frapper aussi. Puis petite note historique pour finir, les Bills n'ont pas gagné à Pittsburgh depuis 1975. Ça veut dire que c'est à l'époque où O.J. Simpson filait sur le terrain et non dans une camionnette blanche.
Oh, mon Dieu, il était prêt. Good job, Steph. Excellente référence. Donc, tous les spécialistes crédibles de la zone payante, n'est-ce pas, mettre une victoire des Steelers, mais ce sera un des beaux matchs du week-end normalement. Et le match du lundi soir, Colts qui visite les Saints. Moi, je vais avec une victoire des Saints. Là. Je pense que les Colts vont jouer au golf cette année, fort probablement. Johnny, est-ce que tu as une surprise dans ce match-là?
Non, j'ai les Saints qui devraient rebondir, mais c'est un match important pour les Saints qui doivent absolument là, resserrer un peu la défensive, qui ne jouent pas du très, très bon football dans les dernières semaines. Je pense que les Colts, c'est une bonne équipe pour ça. Ils ont une bonne ligne à l'attaque, mais c'est pas l'équipe la plus explosive, donc il faut absolument que les Saints jouent bien défensivement à l'approche des séries éliminatoires.
Stéphane?
Bon point, j'y vais avec les Saints aussi, mais c'est pas évident en défensive aussi, parce qu'il y a plusieurs
blessés.
Il y a, regarde, Sheldon Rankins qui va rater cette rencontre-là sur la ligne défensive, c'est un gros trou. T'as des secondaires aussi qui sont blessés, entre autres Kiko Alonso. C'est moins évident là, pour les Saints d'appliquer leur recette défensive parfaite qu'il y avait en début de saison. Donc, je m'attends à voir des points du côté des Colts, mais pas suffisamment pour rivaliser avec l'arsenal offensif des Saints.
Donc, victoire des Saints, c'est pour tout le monde. On a fait le tour d'horizon et contrairement à d'habitude, je n'ai rien oublié. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Toutes mes félicitations.
Merci, Stéphane. Merci beaucoup. On prend une petite pause et on revient pour la chronique au bar. I got a hangover. Alors, de retour, puis je vais commencer avec la chronique au bar parce que mes amis m'ont un peu chesté. On a, pour votre information, amateur de football, pour préparer le show, bien sûr, on communique pendant la semaine. Et quand j'ai dit qui j'allais envoyer au bar, on m'a dit « calme-toi ». Cette équipe d'entraîneurs fait des miracles avec pas grand-chose. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'envoie Mike Tomlin au bar pour...
Sacrilège.
J'envoie Mike Tomlin au bar pour une consommation. Comment tu peux caler un fake punt comme le week-end dernier dans un match où ta défensive domine, tout va bien, Non, on se fait un beau fake dans notre zone, notre punter se fait assassiner carrément sur le terrain... Un touché après, ça resserre le match. Donc, je n'envoie pas au bar pour la semaine, je n'envoie pas à vie. Je l'envoie pour une consommation, un double scotch, là, tac, juste pour le réveiller. Et c'est ce que je fais. Parce qu'honnêtement, le coaching de Mike Tomlin est incroyable cette année, mais là-dessus, je l'envoie au bar pour ce jeu-là, ce call-là précis. Fait Stéphane.
Un potentiel entraîneur-chef de l'année au bar.
Ouais, mais un jeu pour un drink. Les autres, on les envoie pour la nuit, là, on les enferme là, quasiment. Là, c'est vraiment temporaire. Là. C'est comme quand tu poignes la prison la fin de semaine. Là. Continue, Steph.
Je reste dans la division.
Ouais, d'accord. Ouais.
J'envoie le boulanger Baker Mayfield au bar. Et moi, écoute, je parlerai même pas de son jeu sur le terrain. Là. C'est pas ça le point. J'ai détesté sa conférence de presse d'après-match. dans lequel on lui pose des questions sur l'état de santé d'Odell Beckham, puis on lui demande, écoute, t'as pensé quoi, toi, du traitement de l'équipe médicale? Puis il dit, ah, l'équipe médicale, je pense qu'il a pas bien fait sa job. Odell traîne une blessure, c'est un peu de leur faute. Écoute, quelle forme de leadership pour un corps arrière? Le corps arrière, c'est le gars que tout le monde veut suivre dans le vestiaire. Puis lui, il s'en va pointer sa propre équipe médicale. Je pense pas que c'est un bon message à envoyer aux troupes. Si le corps arrière doute de l'équipe médicale, tout le monde peut douter de l'équipe médicale. C'est un autre problème à gérer dont les Browns avaient vraiment pas besoin. Puis ça fait quelques-uns des problèmes qui arrivent par voie du corps arrière cette année. T'sais, c'est pas supposé. C'est supposé d'être le gars qui éteint les controverses par ses performances, par son attitude, par ses déclarations. Puis Baker Mayfield fait tout sauf ça cette année. Au bar, Baker, les mains ligotées et tu bois.
C'est ça. Lui, il reste au bar longtemps, là. Johnny!
Il ne sera pas seul, messieurs.
Oh, t'envoies qui, toi?
J'envoie Le'Veon Bell là, au bar. Le'Veon Bell, lui, qui a décidé, tout simplement, il était malade. Donc, il a décidé le soir avant la rencontre du week-end. Il a décidé d'aller jouer au bowling tard quand même. Il a même décidé de... Écoute, si tu y vas, au moins peux-tu laisser les réseaux sociaux tranquilles? tu te feras peut-être pas pogner. Mais non, lui, non seulement il va jouer au bowling quand il est malade, mais il décide également de le faire connaître à la planète au complet. Et évidemment, ça soulever l'ire de l'entraîneur-chef Adam Gase, et avec raison. Par contre, il faut mentionner qu'il a joué son meilleur match en carrière au bowling, 251.
Félicitations.
Écoute,
on le félicite.
Donc, moi, j'envoie
Le'Veon Bell
au bar, condamné à boire seulement du Zambuca.
Ça nous montre que La Zone payante est une émission polyvalente parce qu'on parle de quilles. C'est quand même quelque chose.
Je m'attendais pas à ça. À la boîte, Steph, merci. Messieurs, on a fait le tour de la question. On vous remercie d'avoir été là, amateurs de football. Et n'oubliez pas, on a un segment fantasy pour vous, important à aller écouter. On est dans les séries là, pour tout le monde là, qui font du fantasy présentement. On a des conseils importants pour vous. On vous attend dans l'autre section de la zone payante d'aujourd'hui.